l'écoute de Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. Bienvenue à Parole Révélée, la révélation de Dieu pour votre vie. Parole Révélée vous invite à écouter une prédication du révérend docteur Dion Yahya Robert intitulée « Le bon Samaritain, le bon Samaritain ». Que Dieu bénisse votre entendement.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire d'abord ensemble Hébreux le chapitre 13. Et après cela, retourner dans Luc chapitre 10, du verset 25 à 37. C'est ce que nous allons lire ensemble. Allons-y.
Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Croyez-vous que de nos jours, on peut avoir encore comme visiteurs des anges? C'est pour cela que nous voulons parler du bon Samaritain. Dieu voudrait que nous soyons l'incarnation du bon Samaritain. Je dis bien l'incarnation. Il n'y a pas de réincarnation, mais il y a l'incarnation. L'Esprit de Dieu peut venir en toi, peut faire de toi son habitation. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Dieu veut s'incarner en nous par son esprit, par sa vie. Qui veut être l'incarnation du Seigneur? C'est merveilleux. Notre premier frère, Jésus-Christ, l'a été avant nous. Il est la plénitude de la divinité, n'est-ce pas? Il est rempli du Père. Et il fait les œuvres de Dieu parce qu'il est l'incarnation de Dieu lui-même. Et Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir aussi l'incarnation de ce grand Dieu. Dit que, moi petit comme ça, je peux être l'incarnation du grand Dieu. Je suis petit, avec une petite foi, mais dans un grand Dieu. Et avec cette petite foi, je reçois le grand Dieu en moi, et je fais les choses extraordinaires. Et puisque nous sommes sortis de Dieu, Dieu veut nous habiter pleinement par son esprit, par sa vie qui nous remplit, pour que lorsque nous passons, que les ténèbres reculent. Lorsque nous parlons, que le royaume des ténèbres tremble. Lorsque nous commandons, que le vent s'arrête, que les montagnes s'ébranlent, que les difficultés s'estompent. Est-ce que vous croyez que c'est possible? J'ai lu le témoignage d'une sœur tout récemment. Elle était missionnaire en Chine, dans les confins de la Chine. Et c'est un pays vraiment marécageux, et il y a beaucoup de forêts aussi. Il y a des dragons. C'est pourquoi, vous voyez, les Chinois sont habitués aux dragons. Il y a des grandes forêts, des grandes montagnes en Chine, des grandes vallées, des grottes. Et cette sœur est allée évangéliser là. Et un jour, pendant qu'elle passait dans une prairie, qu'est-ce qui se passe? Elle entend un bruit sourd. Un bruit sourd dans un buisson. Pauvre femme. Pauvre femme, faible femme, mais remplie d'un Dieu grand. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un serpent géant. Vous savez, il y a des serpents géants qui existent encore dans des forêts qu'on n'a pas encore touchées. Il y y a des serpents géants. Et en Chine, c'est pas... C'est comment ça? Elle voit un serpent géant qui dresse sa tête contre elle. Et le serpent s'élève comme une maison à étage derrière elle. Et comme elle a appris, puisque avant d'aller là, on leur apprend souvent, les missionnaires qui vont dans des coins dangereux pour prêcher l'évangile, on leur apprend toutes les techniques, il faut faire l'anthropologie et tout ça. Donc on leur a appris comment éviter les serpents. Pour éviter un serpent, regardez droit dans ses yeux. Ah, est-ce que vous pourrez faire ça? Il vous fixe. Vous le fixez dans ses yeux. Elle a essayé cette technique. Et plus elle fixait les yeux du géant, que le serpent s'élevait davantage. S'abattre sur elle, et puis l'enrouler comme le serpent boit le fer, et puis la tirer et l'avaler après. Et notre sœur, elle était toute petite, en bas du géant, qui maintenant, sa tête à au moins 5 mètres de haut, surplombait sa tête. Elle fixait les yeux toujours en reculant, en reculant. Mais plus elle recule, le géant s'approche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est seule. C'est les risques de la mission. Qui voudrait aller en Chine comme missionnaire? Il y a beaucoup qui ne veulent pas s'engager dans l'œuvre de Dieu souvent parce que il y a des risques, hein? Il y a la persécution, l'épée, la faim, la nudité, le péril. Ça aussi, c'est le péril. Et notre sœur, elle recule, mais subitement, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et il va vous communiquer sa vie qui est le Saint-Esprit. Quand vous serez rempli du Saint-Esprit, vous allez faire des déclarations extraordinaires, même à la nature. Vous direz à une montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. La parole de Dieu est l'épée. Lorsque cette sœur était devant le danger, plus elle recule, plus le géant s'avance. Le géant était prêt à s'abattre sur elle. Pour l'arrondir, quand le Saint-Esprit, la vie qui est en elle, a déclenché quelque chose, elle s'est souvenue de la parole. Comme Jésus a dit, vous direz à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Elle s'est souvenue de cette parole. Le Saint-Esprit a appliqué cette parole à son cœur et elle a ouvert la bouche. Elle a dit, géant, je ne veux plus te voir là, ôte-toi de là. Et le géant s'est abattu comme quelqu'un l'avait saisi pour le ployer. Il a filé en vitesse et la sœur était libérée. Vous voyez la parole. Ça. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut faire des choses extraordinaires. Mais il faut d'abord avoir la compassion des âmes. Il faut avoir l'amour des âmes. Et que l'amour soit accompagné de compassion. Je voudrais vous raconter encore un autre témoignage que nous avons vécu. C'était à Gagnoua. Fondé là l'une de nos premières églises et un membre de la cellule de Guessio, vous savez Guessio c'est l'un des quartiers de Gagnoua maintenant et Guessio était à quelques 2 kilomètres de la ville mais maintenant la ville a joint Guessio et nous avons là une cellule et il y avait un membre qui était dans son champ. Et un soir, en après-midi, il revenait des champs. Lorsqu'il a rencontré 2 Naja qui se poursuivaient. mâle et femelle. Donc monsieur poursuivait madame. C'est dangereux, ces moments comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait un intrus au milieu d'eux. Et malheureusement pour le frère, il est rentré entre les deux. Monsieur était d'un côté, madame était de l'autre. Et voici un obstacle, un individu, un tout petit bonhomme qui empêche monsieur de poursuivre sa femme. On ne sait pas ce que madame a fait, mais... Alors, monsieur était de l'autre côté, madame était de l'autre côté. Les deux se sont soulevés comme ça avec la tête contre le frère. Et vous savez, ce genre de serpent-là, c'est pas facile de regarder dans ses yeux. Il peut te lancer, n'est-ce pas, son venin et t'aveugler et te paralyser. Le nageur est dangereux. Le venin atteint les yeux, c'est fini. Ça se transmet directement, n'est-ce pas, à la nuque, et puis ça paralyse les nerfs sciatiques, automatiquement. Alors, le frère était au milieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Purement et simplement, ce n'est pas un lieu de culte, mais il s'est mis à genoux. Il a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Les yeux étaient fermés, il ouvre les yeux, les nageurs sont là. Dans ces conditions-là, on prend tous les noms possibles de Jésus. Prince de paix. Il ouvre les yeux, les nageurs sont là. Jésus de Nazareth. Il ouvre les yeux, les nageurs sont là. Roi des rois. Tu vas citer tous les attributs de Jésus. Les nageurs étaient là. Et ils s'approchaient. L'un de l'autre. Et le frère au milieu. Mais, tout d'un coup, quelque chose encore s'est passé. Il est tout petit entre deux géants, mais il a en lui un Dieu grand. Le Saint-Esprit a appliqué à son cœur l'autorité. En mon nom, vous saisirez les serpents et ils ne vous feront aucun mal. Vous chasserez les démons. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit que nous devions faire? Mais il faut être d'abord rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, à cet instant précis, il a crié le nom du Seigneur et il a ordonné au serpent de reculer. Il ouvre les yeux, les deux serpents ont disparu. Vous voyez, Jésus, quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est de la réalité, ce n'est pas des fables. Et il voudrait que cette... Vous voyez, c'est une potentialité de vie. Les hommes s'isolent. Ils cherchent le secours. Ils cherchent les moyens de sortir du mal. Mais ils ne savent pas comment. Ils vont dans les fétiches. Ils vont chez les marabouts. Ils vont dans les sectes pernicieuses pour chercher la puissance, pour chercher l'autorité, pour chercher quoi? Ils vont voir Baé. Ils essaient, quand ça ne marche pas, ils vont chez Kokamba. Après, ils vont chez Papa Nouveau. Après, ils vont au christianisme céleste. Après, ils viennent chez les baptistes. Après, ils vont aux catholiques. Après, Assemblée de Dieu. Et ils parcourent. Il faut être l'incarnation du Seigneur. Amen. ce que l'homme a besoin, c'est la parole de vie. C'est l'évangile. Lorsqu'il reçoit l'évangile, l'évangile est la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Et c'est par l'évangile qu'on reçoit la vie de Dieu. C'est pas par la religion. Et quand vous avez la vie de Dieu, pour que cette vie continue, Dieu voudrait que vous la communiquiez. Celui qui garde la vie ne peut pas prospérer dans le règne de Dieu. La vie nous a été donnée, c'est une vie qui est donnée et elle doit être donnée. Utilise ta vie, cette vie que Dieu t'a donnée. Il y en a qui sont passifs, qui viennent à l'église, mais ils sont passifs. Il faut être actif. La vie que Dieu nous a donnée est une vie active, une vie qui agit. Une vie qui détruit et qui construit. Une vie qui peut détruire les œuvres du diable et reconstruire à la place les œuvres du Seigneur. Il y a des multitudes d'hommes et de femmes dans ce temps difficile qui souffrent, qui sont isolés. Ils peuvent être avec des gens, mais ils sont isolés. À l'intérieur d'eux, il y a un vide. Il y a quelque chose. Ils ont peur du lendemain. Ils craignent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens? Le diable les a attaqués, les a battus. Et ils sont battus. Certains d'entre eux-mêmes sont des Goliaths qui sont battus. Des hommes forts, physiquement forts, vigoureux, mais intérieurement vides. Intellectuellement remplis, mais intérieurement vides. Ils ont la tête bourrée de papier, mais le cœur vide de connaissance de Dieu. Et ça augmente leur douleur. Pour certains, ils n'ont rien dans la tête, mais ils sont si malheureux. Et toi et moi devrions être l'incarnation de Dieu pour intervenir. Parce qu'il y a la parole à nous, il y a la dynamite. Dieu a placé une bombe à nous pour détruire les œuvres du diable. C'est la parole. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que tout se fait par la parole. L'Esprit de Dieu se sert de sa parole. Et nous ne devrions pas être passifs. Venir seulement, venir s'asseoir, recevoir et puis repartir, venir s'asseoir, repartir. Nous devrions être actifs parce que Dieu est actif. Il agit pratiquement. Ouais, ce que les gens de ce monde maintenant ont besoin, c'est pas tellement les paroles, c'est les choses pratiques. Ils ont entendu pas mal de discours depuis l'université jusque dans la plantation. Ils ont entendu des discours politiques. Ils ont entendu des discours de sagesse. Ils ont entendu des palabres, toutes sortes de discours. Parce que nous vivons à une époque de multitude de paroles, où on entend beaucoup de voix. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est la voix de Dieu. Et c'est cela que tu as dans ta vie. Et tu dois communiquer cette voix aux autres. Le monde est saturé de religion. Le monde a besoin des hommes et des femmes, des enfants qui incarnent la vie de Dieu et qui la communiquent. Dieu nous a appelés à cela. Est-ce que tu peux communiquer la vie de Dieu? Avoir la compassion. Tu trouves quelqu'un qui est en train de mourir dans la maladie. Et tu sais que la vie de Dieu se trouve en toi. Et tu vas, tu lui imposes les mains. et tu prononces des paroles de délivrance et tu lui communiques la vie, la délivrance, la guérison, est-ce que tu peux le faire? Oh, je sais que de nos jours, les gens n'aiment pas ça. Ils disent, oh, ça c'est révolu, c'est au temps des apôtres, on peut voir des choses comme ça. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce sont les hommes qui changent, mais Dieu ne change pas. Et si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous sommes appelés à communiquer la vie, à communiquer la délivrance, à communiquer l'assurance, même à des cœurs brisés. Et pratiquement également. Nous n'avons pas reçu la parole en vain. Si tu ne donnes pas ce que tu reçois, tu t'appauvris. Est-ce que croyez-vous que c'est ici qu'on a besoin de vous comme chrétiens? Non. Je n'ai pas besoin que tu me prouves que tu es enfant de Dieu. Moi, je le suis. Je le suis aussi. Tu n'as pas besoin de briller devant moi. Je suis autant que toi la lumière. Peut-être même que ma lumière est plus forte que la tienne. Donc, je n'ai pas besoin que tu brilles ici. Je sais que déjà tu es la lumière. Où tu dois briller, c'est dehors. C'est parmi les païens. C'est parmi les religieux. C'est parmi les hommes de ce monde qu'il faut briller. Il faut communiquer la vie. Ne soyons pas passifs. Je me souviens avoir fait la chasse beaucoup de fois. À Oumé, mon grand frère était haut et forêt. Chasse interdite, mais comme j'étais dans sa maison, je faisais la chasse. Et pendant les nuits, j'allais et je tirais beaucoup le fusil. Et à force toujours de tirer, le fusil avait déplacé mon épaule. Et chaque fois, la douleur devient atroce. Il arrive des moments où tout mon bras droit est paralysé, je ne peux pas tenir même le bip. Pendant que je suis en train d'écrire, que la douleur commence, c'est fini. Je ne peux plus saisir. Et vraiment, je souffrais comme ça en secret. Je ne voulais rien dire à personne. Vous savez, il y a des gens qui souffrent comme ça en secret. Ils souffrent. Ils ne disent rien à personne. Ils ne dégagent pas ce qu'ils ont dans le cœur. Et ils meurent avec ça. Ils sont en var. Alors, j'ai souffert longtemps avec ça. J'ai dit, mais vraiment. Et un jour, on allait à Soubré, invité par l'église USO. C'était le pasteur Godeski qui était pasteur à cette époque à Soubré. Et arrivé à quelques 5 km de Soubré, puisque j'étais au volant, tous ceux qui étaient dans la voiture ne savaient pas conduire. J'étais le seul chauffeur. Après le carrefour de Yabayo, on est allé vers la gauche et arrivé quelque part, là, je ne pouvais plus conduire. Ma main est paralysée. Heureusement, je n'allais pas à une allure rapide. J'ai parqué, mais je ne pouvais plus avancer. On nous attend, le programme est prêt. Et c'est moi qui dois prêcher et voici, je suis paralysé. Comment on va arriver? Est-ce qu'il faut marcher? C'est à ce moment, j'étais passif toujours devant ce mal. C'est à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu t'en vas prêcher là-haut. Quand tu vas prêcher ma parole, est-ce que ma parole ne sera pas confirmée par des signes et des prodiges? Tu vas prier pour les autres? Pourquoi tu n'essaierais pas de prier pour toi-même? Alors, j'ai pris ma main gauche et je l'ai imposée là. Voilà comment j'ai fait. Et j'ai dit, épaule, tu as été créé par la parole de Dieu. Et je t'adresse maintenant la parole. Je sais que cette épaule a été déplacée par le péché de gourmandise. Dieu, pardonne-moi. Pardonne mon incrédulité. Et j'ai imposé ma main. J'ai ordonné à l'épaule d'être guérie. Depuis ce jour, je ne sens plus rien. C'est fini. C'était en 1982. Voyez la parole. Voyez, Dieu nous a communiqué sa vie. Et on conserve cette vie. On est avec des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. Et nous sommes là, chrétiens, et nous observons leur misère. Et on ne peut rien faire. On est passif. Et chaque dimanche, on prend des grosses Bibles comme la mienne, on met sous l'épaule et puis on vient peinard à l'église, on s'assoit, on reçoit la parole, on retourne dans le monde, on contemple le monde avec ses misères et on retourne à l'église. C'est pas normal. Nous devrions être actifs. Amen. Même les enfants. Qui a la parole de Dieu? Mes amis, c'est tellement simple. Dieu dit qu'il est prêt à remplir de son esprit celui qui est prêt à obéir. Il est prêt à remplir son esprit de celui qui est prêt à obéir. Et nous pouvons tous obéir. Il faut prendre soin des gens. Je ne suis pas sauvé pour moi seul. Je suis sauvé pour être un canal, un moyen de sauvetage pour les autres. Est-ce que vous croyez que le monde est en souffrance? Avez-vous des gens autour de toi qui sont en souffrance? Est-ce que vous connaissez des enfants qui sont en souffrance? Je me souviens, une jeune femme là-bas à la gare, elle est juste, quand nous étions là, elle est juste à droite. C'est une femme garçon. Elle aime palabre. Maintenant, elle est un peu calmée parce que elle a été brisée complètement. Elle n'est pas encore chrétienne, hein, mais il y a une expérience qui est arrivée dans sa vie qui l'a brisée. Et elle est calmée dans le quartier. Mais sinon, avant, on ne la touche pas. Et elle avait un enfant. Quand on commençait l'œuvre là-bas à la gare, en 1975, elle avait un enfant de 3 ans qui ne marchait pas. Et elle est baoulée et elle a marié un musulman. Donc, en tant que d'origine animiste, païenne, elle connaît quand même le pouvoir de Jésus. Et un jour, je ne sais pas ce qui l'a poussé, elle a pris son enfant qui est paralytique depuis 3 ans. Il est né, il ne marche pas, de toute façon. Et elle est venue déposer sans rien nous dire. Sans rien nous dire. Elle est mauvaise, de toute façon. Son cœur est mauvais, elle est méchante. Sans rien, tu prends ton enfant comme ça, sans rien dire à personne, tu déposes chez quelqu'un. Et puis tu laisses. Parce qu'elle sait qu'on prie là. Elle s'est compris là qu'il y a une solution à son problème. Elle a consulté, elle a passé partout, pas de solution. Et un soir, l'après-midi, là, vers 15h, elle a déposé l'enfant là et elle est partie. L'enfant ne peut pas bouger. Et quand j'ai vu cet enfant, il y a une compassion qui m'a touché. L'Esprit de Dieu en moi a commencé à se manifester par la compassion pour cet enfant, par l'amour. Voyez, vous ferez des miracles, des prodiges au nom du Seigneur lorsque vous aurez l'amour dans votre cœur. Sans amour, il n'y a pas de miracle. Sans compassion, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de transformation des vies. Mes amis, j'aimerais que nous ayons la compassion. Vous allez voir des grandes choses qui vont se passer. Alors, j'ai pris cet enfant les bras, les pieds ballants comme ça. Et j'ai appelé le frère Do Marcel. J'ai dit, Do, viens m'aider. On a pris cet enfant et on lui a imposé les mains. Et on a dit à ses chevilles, à ses articulations, au nom de Jésus, de sa famille maintenant, que cet enfant, que cette semaine, que cet enfant marche pour que sa mère voie que Jésus-Christ est vivant. Vous savez, le miracle, c'est quoi? C'est quand Dieu attaque la racine du mal et en même temps les branches et les feuilles, automatiquement. Les guérisons, c'est quoi? Vous priez, vous imposez les mains et vous laissez partir la personne. Et Dieu agit après. C'est ça qu'on appelle la manifestation de l'esprit par les miracles ou par les dons des guérisons. Par dons des guérisons, souvent nous prions pour des gens et on pense que ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas notre devoir. C'est Dieu qui est souverain. Amen. Nous imposons les mains, nous laissons partir la personne et Dieu, il opère. C'est pourquoi on dit dons des guérisons. Dons des guérisons. Donc, il y a plusieurs formes de guérison. La personne peut être guérie intérieurement et le corps reste toujours malade. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Si son intérieur est guéri, son âme est guérie, ce n'est pas plus important même que le corps. Souvent, l'âme peut être guérie et quand le corps n'est pas guéri, on n'est pas content. Et on pense qu'on est minable. Non! Dieu, il fait des choses extraordinaires. Il a guéri ton âme très bientôt lorsqu'il te ressuscite. Il te ressuscite avec un corps glorieux. Donc, il y a plusieurs formes de guérison. C'est pourquoi on dit don des guérisons. Quand c'est don des miracles, ça veut dire que c'est quelque chose d'instantané. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme cet arbre. Vous le déracinez. Il peut être couché là. Les feuilles peuvent paraître être vertes, mais les racines sont détruites, n'est-ce pas? Petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Les feuilles vont jaunir et s'assécher. Ça, c'est un peu comme le don des guérisons. Quand c'est le miracle, Dieu attaque la racine et en même temps la feuille. Et automatiquement, tout sèche, comme le figuier maudit. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez maintenant la différence entre don des guérisons et miracle? Quand c'est le miracle, c'est quelque chose qui se passe instantanément. Et Dieu est souverain. Il n'est pas toujours obligé de faire tout instantanément. Lorsque nous avons imposé la main à cet enfant, nous l'avons, je l'ai prise et je suis allé donner cet enfant à sa mère. Il dit, bon, tu as déposé ton enfant là-bas. Mais nous avons prié pour lui. Elle n'a rien dit. Elle ne m'a même pas dit merci. Bon, évidemment, je n'en avais pas besoin. La même semaine, l'enfant qui ne marchait pas depuis 3 ans a commencé à marcher. Voyez, nous devons être sensibles aux problèmes des humains. Est-ce que vous comprenez, mes frères? On ne devient pas chrétien pour être passif. Soyons sensibles aux problèmes des humains. Nous vivons avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants. Nous vivons dans un milieu où nous voyons tout le temps des gens qui se plaignent ou d'autres qui ont le mutisme, mais qui souffrent intérieurement. Il faut avoir le discernement, avoir la compassion pour pouvoir les aider. Je vous dis qu'il y a des gens qui vivent dans une cour commune et qui n'ont jamais ouvert la bouche pour prêcher l'évangile de salut à quelqu'un. C'est malheureux. Et tout le temps, ils viennent à l'église. Tout le temps, ils viennent à l'église, on les voit avec des Bibles. Et quand vous faites cela, qu'est-ce que les gens vous disent dans leur cœur? Oh, mais ton Dieu là, toujours Bible, vous nous embrouillez maintenant. On a des problèmes, votre Dieu là ne peut rien faire. Vous voyez, Ne soyons pas passifs, mes frères et sœurs. Lisez ce texte. Nous allons voir l'attitude que nous adoptons souvent. Luc, le chapitre 10.
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Arrête-toi là. Que dois-je faire pour hériter? Dieu dit que si nous avons Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire quoi? Les mêmes privilèges que Jésus-Christ a, nous recevons les mêmes privilèges. Si Jésus a guéri, nous pourrons aussi le faire. Si Jésus a ressuscité, nous pourrons aussi le faire. Si Jésus est ressuscité des morts, nous aussi nous allons ressusciter des morts. Nous sommes co-héritiers. Si Jésus règne, nous aussi nous devions régner. Nous partageons l'héritage avec Jésus. Et il est dit, cet homme de la loi, ce docteur de la loi pose la question à Jésus, « Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Qu'est-ce que Jésus lui répondit ?
Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lut-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. »
Amen. Mes amis, est-ce que nous voulons vivre? Qui voudrait vivre la vie de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est quoi? C'est participer à sa vie. C'est avoir la compassion. Voyez, la passion, c'est la souffrance. Quand on dit compassion, c'est-à-dire tu souffres avec lui pour lui apporter le soulagement. Tu as une compassion pour les âmes. Tu dois brûler du désir de sauver les âmes. Lorsque tu vois un soulard, au lieu de se moquer, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut tout de suite intervenir, chasser l'esprit d'alcoolisme. Tu sais que c'est un démon qui l'anime. Si tu vois quelqu'un qui fume, tu sais que c'est un démon qui le lie. Tu peux lui prêcher la parole. S'il accepte que tu pries, tu lui imposes les mains, tu détruis les œuvres du diable. Son corps n'est pas un bateau pour fumer. C'est le temple de Dieu. Tu imposes à sa vie, par la parole de création, la destruction du goût de la cigarette. Tu verras que ça va s'accomplir. Tu vois un homme dans la souffrance, un cœur aigri. S'il accepte de t'écouter, tu l'as déjà gagné. Tu sèmes en lui les paroles de guérison. Tu vois une mère affolée. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux vivre la vie éternelle, alors prends compassion de tes prochains et de toi-même. Il faut d'abord t'aimer. Il y en a qui ne s'aiment pas, hein, je vous dis. Il y en a qui ne s'aiment pas. Je vais vous raconter une histoire. J'ai été l'incarnation du Seigneur une fois pour quelqu'un. C'est un témoignage que je fais pour illustrer un peu ceux qui ne s'aiment pas. C'est un homme qu'on a envoyé de chez moi, dont le CHR de Mans l'avait envoyé recommander au CHU de Cocody. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement là-bas, c'était grave. Regardez d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient d'un village où se trouve maintenant notre église. Il vient de Denné, dans le canton Bruno Verdanané. Mais il était méchant dans le village. Que lorsqu'il tomba malade, personne ne voulut s'occuper de lui. Et j'ai un oncle là qui est chrétien. Il a eu compassion. Lui-même a déboursé son argent. C'est un ancien combattant. Il avait de l'argent. Il a déboursé son argent pour l'envoyer à Mans. Arrivé à Mans,
Les médecins ont trouvé que vraiment, ils ne peuvent rien faire là-bas. Et l'avion hospitalier l'a transporté de Mans à Cocody gratuitement. Ben, c'est sur une recommandation. La grâce de Dieu et la prière de cet oncle agissaient pour cet homme. Ils sont venus au CHU et l'oncle est venu me voir. En ce moment, j'étais à la radiodiffusion ELWA comme animateur de programme. Et il m'a vu, il dit, bon, je suis dans les difficultés, voici telle personne qui vient de chez nous, a été recommandée par l'hôpital de Mans, donc la situation est grave, il faut m'aider, tu es mon seul parent ici. Bon, chaque soir, il faut aller, les médicaments pour cette maladie-là coûtaient très cher, très très cher. Et après 2 semaines, un vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois à la station de radio là-bas l'oncle et qui est venu me voir. Il dit vraiment, mon fils, la situation est telle que les médecins demandent qu'on paye une piqûre. Sans cette piqûre-là, l'homme là va mourir. Ils ont fouillé partout là-bas, il n'y en a pas. Et la valeur de cette piqûre, c'est environ 9 000 à cette époque. Ça coûtait cher. Bon, je viens te voir, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour qu'on puisse avoir cette piqûre? Je n'avais rien au travail et je suis venu avec lui ici à Yopougon pour chercher de l'argent. Malheureusement, derrière, cet homme mourait. Avant qu'il n'arrive, il était déjà mort et on l'a mis à la morgue. Nous sommes arrivés, on avait payé la piqûre à la pharmacie des arts. La piqûre était dans nos mains, mais il était déjà décédé. Qu'est-ce qui se passe? Au moment... Puisque c'est un cas social, c'est les prisonniers qui ont lavé son corps. Au moment où les prisonniers lavaient le corps, on découvre dans son slip, entre ses jambes, 20 000 francs. Dites-moi, est-ce que cet homme s'aime? Est-ce qu'il s'aime? C'est malheureux. Ça nous a déçus. Et on a dit, c'est terminé. C'est les prisonniers qui vont t'enterrer ici à Abidjan. Personne ne s'occupera de toi. On est revenu à la maison, on l'a laissé là-bas. C'est les prisonniers qui l'ont enterré à Williamville. Il y a des gens comme ça, très avares. Très, très avares. C'est un démon. Il ne s'aime pas. Ils peuvent être assis sur des biens et être malades. Mourir. C'est comme ça. Et c'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples, il dit, ne soyez pas avares. Il y a des avares. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ne s'aiment pas et ils n'aiment pas les autres et ils n'aiment pas Dieu. Un avare ne s'aime pas. Si tu es avare, c'est sûr. Si tu es avare sur l'argent, tu seras avare sur la parole de Dieu. Si tu es avare sur ta nourriture, tu seras avare dans tous les autres domaines. Qui est avare parmi nous? Ça, c'est sûr que personne ne lèverait la main. Mais Dieu connaît les cœurs. Tu peux être là, on est en train de prier pour un problème quelconque qui peut coûter peut-être 20 000 francs. Et toi-même, tu sais que tu as au moins 50 000 francs en poche et puis tu te mets avec les autres pour dire, oh Dieu, donne 20 000 francs. Dieu, hypocrite, faux type. Tu n'as pas l'amour, tu es mort. Vous voyez? Il a ce qu'il a plus que ce qu'on demande à Dieu. Il a ça et il se mêle aux autres pour prier. Regardez. Jésus dit, si tu veux avoir la vie éternelle, aime ton prochain comme toi-même. Aie la compassion des âmes. Lorsqu'on dira, oh, les Guinéens souffrent, allons prêcher l'évangile aux Guinéens, tu devrais être le premier à dire, moi aussi je vais, ou si je ne vais pas, j'envoie des missionnaires pour qu'ils se fassent des délivrances. Que l'angoisse, la peur, le chagrin, la haine, toutes ces puissances-là qui sont en Guinée soient brisées. Est-ce que tu ne serais pas de l'eau, ceux qui iront en Guinée l'année prochaine? Si. Mais il faut avoir la compassion. On dit, il y a telle personne qui souffre dans telle difficulté. Et tu es dans le quartier, tu es chrétien, lumière de Dieu, incarnation du Dieu vivant. Tu es là et puis tu es à côté de la créature que toi-même tu as créée avec Dieu. Et cette créature souffre et tu n'oses pas communiquer la parole. Tu es dans un bureau avec quelqu'un qui est en train de gaspiller son bien avec les démons. Et puis tu es là, tu ne dis rien. Tu ne sais pas que tu as été établi sentinelle sur lui pour le retirer du mal. Tu ne sais pas cela. Tu es l'incarnation du Dieu vivant auprès de lui. Ne sois pas avare sur la parole. Ne soyons pas passifs. Regardez, Jésus dit, tu as bien répondu.
Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même.
Voici une histoire. Qui est mon prochain? Jésus donne l'exemple. Quelqu'un descendait de Jérusalem vers Jéricho. Entre Jérusalem et Jéricho, ça fait environ 27 kilomètres. Et Jérusalem est un peu plus à quelques altitudes. 250 mètres d'altitude. Donc il faut descendre la pente pour aller vers Jéricho. À mi-chemin, cet homme avait été rencontré par des brigands qui le ruaient de coups, qui le frappait, qui le dépouillait et qui le laissait à demi-mort. Maintenant, vous allez voir. Un sacrificateur va passer aussi par là et il va voir cet homme à demi-mort, agonisant. Et un sacrificateur, en fait, c'est qui? C'est quelqu'un qui, dans le temple, présente à Dieu les offrandes du peuple, les sacrifices du peuple à Dieu. Donc, il est supposé un homme spirituel. Il est supposé la main de Dieu auprès des malheureux. Mais Jésus dit, ce sacrificateur vit cet homme agonissant et il passe outre. Il cueille une feuille, il jette sur lui comme on jette sur un chien et il passe. Il dit, mon ami, je regrette, je n'ai pas le temps. Le prochain culte m'attend. Je dois aller rapidement. Et il passe outre. Mes amis, croyez-vous qu'il est un bon sacrificateur? Et puis, un autre qui vient, un lévite. Qu'est-ce qu'un lévite?
Qui sont les Lévites? C'est des chantres. Dans la maison de Dieu, ceux qui s'occupent de la louange, de l'adoration. Il est supposé aussi spirituel, n'est-ce pas? Mais regardez son attitude. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc ces deux hommes sur qui Dieu compte pour apporter solution aux problèmes des hommes n'ont pu rien faire. Parce que soi-disant, ils avaient des excuses. Ils avaient des excuses. Pourtant, c'est eux qui sont représentants de Dieu auprès des malheureux, auprès des misérables, pour les reconduire vers Dieu, pour que Dieu leur paie, les touche et les guérisse et les soulage. Mais ils voient cet homme agonissant et ils passent outre. Regardez maintenant un autre contraste, 34. Mais, c'est le verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain. Qui sont les Samaritains? Vous savez, les Samaritains étaient des remplaçants de Juifs. Sargon les avait fait une transplantation. Il avait pris 27 000 Juifs qui étaient des rebelles au gouvernement colonial. On les a enlevés de cette partie de ce territoire d'Israël pour les amener en Perse. Et ils ont pris les Perses et qui sont venus là, dans la région de Samarie, en Israël. Puisqu'ils étaient un peu rebelles, ceux-là, les Juifs qui étaient là, ne voulaient pas payer l'impôt aux colons et autres. Alors, la meilleure solution que Sargon, qui était à l'époque, n'est-ce pas, roi, la meilleure solution qu'il a trouvée, c'est de faire une transplantation de tribus. Donc, il a pris 27 000 Juifs qu'il a envoyés en Arabie et en Perse, et il a pris à la place, n'est-ce pas, des Babyloniens qu'il a envoyés sur la terre d'Israël. Donc, ils sont considérés pour Israël comme des païens, des gens qui n'ont aucune part avec eux. C'est pourquoi, vous voyez, les Juifs avaient toujours une attitude négative vis-à-vis des Samaritains. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un peuple, c'est pas les Samaritains, ceux qui occupent cette partie de la Samarie, ne sont pas de race juive. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et les Juifs haïssaient les Samaritains. Puisqu'ils sont sur la terre d'Israël, les remplaçants de leurs frères qu'on a déportés. Voyez, le Samaritain qui ne connaît pas Dieu, c'est lui qui voit cet homme agonissant et qui le prend et il le met sur sa propre monture et qui l'envoie dans un hôtel et qui demande à l'aubergiste, prends soin de lui, nourris-le, je paierai de tout, hein, tout cela de ma poche. C'est un Samaritain qui le fait. Dites-moi, entre les deux premiers et le Samaritain, parmi ces trois-là, qui sera sauvé? Qui aura la vie éternelle? Pourquoi? Parce qu'il a eu le cœur de Dieu, la compassion. Il a partagé ce qu'il a. Et les autres qui se disaient spirituels, sacrificateurs, lévites, ils ont laissé leur devoir. Vous voyez, nous avons un travail à faire, vous et moi, d'être l'incarnation du bon samaritain, d'être la solution au problème des gens. Qui veut s'engager à être le bon samaritain? Voulez-vous vous engager? Voulez-vous vous engager? C'est vrai ça? Levez-vous. Vous allez vous engager par la parole. Dis, Seigneur, je veux être ton incarnation. Je veux recevoir en moi pleinement ton esprit pour que je sois actif. Parce que tu es un Dieu actif. Ton amour ne dort pas. Ton amour agit. C'est un amour qui guérit, un amour qui délivre, un amour qui communique la victoire. Tu veux communiquer la victoire à ceux qui souffrent, communiquer la victoire au cœur brisé, communiquer la victoire aux captifs, communiquer la victoire à ceux qui sont opprimés, oppressés, communiquer la victoire aux aveugles, communiquer la victoire à ceux qui périssent dans le péché. Dieu n'aime pas les passifs. Si tu es passif, tu perds ton temps. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Amen. Nous allons demander au Père de nous remplir de sa compassion maintenant pour les âmes. Regardez autour de vous les âmes. Pendant que nous allons prier, que nos têtes sont baissées, voyez, pense un peu aux captifs qui sont autour de toi. Pense à ces femmes, à ces hommes qui ont le cœur brisé, qui ont des fardeaux dans leur cœur. Tu connais dans ton milieu des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent, des malheureux. Tu connais toutes ces personnes-là. Tu connais des orphelins. Tu connais ces femmes qui ont été abandonnées par leur mari et qui souffrent toutes seules. Tu connais ces hommes qui ont été abandonnés. Tu connais ces veuves. Tu connais ces veuves. Tu connais ceux qui ont été chassés de leur travail. Tu connais ceux qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Tu connais ceux qui souffrent de la maladie. Tu connais ceux qui ont le cœur aigri. Souviens-toi de cela. Et sois un canal que Dieu va utiliser pour les guérir, pour les restaurer. Sois un canal qui sera rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, pour utiliser la parole que tu reçois tous les jours. Prions le Seigneur. Demande d'être un canal.
Si vous nous prenez en marche, sachez que vous écoutez Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. À l'instant, dans Paroles révélées, révérend docteur Dion Yaye Robert donnait une prédication sur le bon samaritain. Si vous souhaitez réécouter cette prédication, n'hésitez pas à nous appeler au 489 082 71 489 082 71. Paroles révélées, c'est tous les mercredis, jeudi et vendredi à 6h30, 21h pour la rediffusion. Bonne suite de programmes sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière.